voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Marjane Satrapi. Ce soir, la construction d'une rebelle.
Bonsoir Marjane Satrapi.
Bonsoir Virginie.
Merci de nous recevoir dans votre atelier parisien. Vous avez joué un rôle de passeur de la culture, de l'identité et de l'histoire iranienne avec Persepolis, votre autobiographie dessinée que vous avez écrite et publiée en France entre 2000 et 2003 et qui fut un immense succès de librairie. Puis qu'avec le dessinateur Vincent Paronneau, vous avez adapté au cinéma en 2007 sous la forme d'un film d'animation. Vous êtes aussi l'auteur de Poulet aux prunes et de Broderie, d'autres romans graphiques qui se déroulent en Iran. Grâce à vous, nous avons, nous, le grand public, eu un tableau du quotidien en Iran sous le Shah, puis pendant et après la révolution islamique, qui a eu lieu 10 ans après votre naissance, vous êtes né en 1969. Persepolis décrit les conséquences immédiates et matérielles de l'obscurantisme sur la société iranienne, les effets de la guerre Iran-Irak, les réactions à l'invasion du Koweït. La conséquence de cette succession de bouleversements, et à la lecture de Persepolis, on a vraiment le sentiment que vous êtes prise dans une tornade qui ne s'arrête jamais, qui ne vous laisse jamais sortir ni respirer. Donc la conséquence, c'est que certaines familles iraniennes ont souhaité le départ en Europe ou aux États-Unis de leurs enfants. Et ce fut le désir de vos parents. Vous vivez en France depuis 1994. Depuis 2004, vous ne publiez plus de bande dessinée. Vous êtes réalisatrice. Vous avez réalisé 5 films. Le dernier raconte l'histoire de Marie Curie. Il s'intitule Radioactive. Il est sorti la semaine du confinement, en mars dernier. Ce n'était pas le meilleur moment, mais il est déjà disponible en VOD et il est très réussi. Alors ce soir, Marjane Satrapi, dans ce premier entretien, il sera question de votre enfance imbriquée dans l'histoire de l'Iran et pendant laquelle vous polissez un caractère rebelle. Mais j'ai une première question. Dans Persepolis, le lecteur vous découvre successivement prophète en herbe, marxiste habité par un redoutable sentiment de puissance, anarchiste et même professeur d'aérobic. Aujourd'hui, idéologiquement, vous en êtes où ?
Idéologiquement, je pense que je n'ai pas d'idéologie. Je pense qu'il n'y a rien de plus restrictif que d'avoir une idéologie, parce qu'avec une idéologie, vous devez en fait embrasser toute une pensée, toute une façon de penser avec les gens qui le pensent. Sauf que dans chaque pensée, il y a des bémols. Ça veut dire, normalement, je suis quelqu'un de gauche, mais après, quand je vois comment la gauche pense l'être humain, je ne peux pas complètement adhérer parce que j'ai l'impression que c'est les cathos qui parlent de l'être humain, d'un être humain rêvé, merveilleux, spirituel, qui ne cherche que de vivre bien avec ses semblables, alors que l'être humain, il est compétitif, ou l'être humain, il est vaniteux, l'être humain, il est aussi tout ça. Et ce n'est pas des mauvais traits de caractère, être vaniteux, ambitieux, compétitif, c'est pas en soi, c'est pas mauvais. Mais de ne pas l'accepter, c'est là où ça devient un problème. Et pour moi, ça a été très très dur d'être de gauche, surtout parce que je ne suis pas de droite. Donc oui, j'essaie de ne pas avoir d'idéologie, j'essaie à mon propre niveau, d'un niveau d'un être humain, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Après, j'y arrive pas tout le temps, hein. Mais bon, j'essaie.
Vous êtes née en 1969 dans une famille composée de vous, fille unique, d'un père, d'une mère qui se sont mariés par amour et entre lesquels l'amour dure, en tout cas dans les 4 tomes de Persepolis, d'une grand-mère maternelle qui a beaucoup d'humour et d'un oncle communiste.
Oui.
Vos parents, politiquement, est-ce qu'ils étaient engagés ?
Oui, bien sûr, mes parents, ils étaient engagés, mais parce que c'était aussi un moment où on ne pouvait qu'être engagé. Vous savez, nous avons grandi, moi j'ai grandi sous une dictature, c'était quand même sous le régime du Shah, évidemment, on avait beaucoup plus de liberté individuelle. Vous savez, on s'habillait comme on voulait, on pouvait sortir, il y avait plein de choses qui étaient différentes. N'empêche que c'était une dictature. Donc même mes parents qui étaient opposés au régime du Shah, jamais, ils parlaient toujours de son Altesse, le Shah d'Iran et tout ça, pour que je ne dise pas quelque chose, un mot de travers quand j'allais à l'école. Et quand il y a eu la révolution, évidemment, comme beaucoup de gens, ils ont cru à cette révolution démocratique qui allait nous ramener la démocratie, etc., etc. Et ce qui n'est pas réellement arrivé, parce que nous étions dans un pays où il y avait beaucoup d'illettrisme, qui était un pays qui était quand même très traditionnel, assez illettré. Donc, le sentiment qui réunissait les gens, c'était la religion ou voilà, le sentiment national. Donc, bon, voilà, ça, tout ça, c'est des anciens souvenirs. Mais oui, l'engagement était là. Et puis après, bon, l'instauration de la République islamique, ça a empiré tout. Donc oui, il y a eu un engagement.
Quel était le métier de vos parents ?
Mon père, il est ingénieur. Et ma mère, on va dire que ça a été une grande voyageuse. Elle a beaucoup voyagé, oui.
Elle voyageait sans votre père et sans...
Oui. Ma mère a beaucoup aimé voyager sans mon père. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a transmis. Moi, j'aime bien aussi voyager seule. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quand on découvre, il vaut mieux être seule. Parce que comme ça, il y a tous nos sens qui sont ouverts aux autres et à tout ce qui nous entoure.
La dictature mise en place par le Shah, elle se traduisait par quels autres signes que par cette révérence dont vous avez parlé
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parti politique, il n'y avait pas d'opposition, vous n'y avait pas une presse qui pouvait s'opposer, on ne pouvait pas critiquer le gouvernement, il y avait toutes ces choses-là. Et si quelqu'un, à tout hasard, critiquait, il pouvait se trouver dans les mêmes prisons qu'on a d'ailleurs aujourd'hui à Evin, et que ça va, que c'était le système secret et que c'était un organe puissant qui avait des tortures, etc. Bon, c'est sans commune mesure avec ce que nous avons vécu après. N'empêche que c'était une dictature parce que il y a eu quand même en 1953 un coup d'État en Iran qui a enlevé notre premier ministre Mossadegh, qui avait nationalisé notre pétrole. Et le résultat de ça, c'est le Shah qui est venu, soutenu par les Américains et les Anglais. C'est comme ça que ça s'est installé. Après, c'est pas parce que ce qui a suivi, c'était pire que ce qu'on a vécu était bien. Tout devient relatif, c'est un peu comme aux États-Unis. Maintenant, tout le monde trouve que George Bush, c'est un monsieur très sympathique, alors que le feu dans lequel nous vivons aujourd'hui dans le monde a été allumé par George Bush. Il a été un salaud, mais sans nom. Je dis, c'est un criminel de guerre, mais bon, comparé à Trump, il a l'air d'un petit poussin tout mignon. Donc, c'est toujours en comparaison, quand il y a quelque chose de pire qui arrive, on oublie ce qui s'est passé. Or, pour pouvoir avancer, il faut toujours reconnaître les torts pour pouvoir avancer et de ne pas non plus toujours idéaliser ce qui a été avant. Notre pays n'a jamais connu la démocratie. Et même si, comme le disait Churchill, c'est pas un système parfait, c'est quand même le meilleur système qui existe, que la liberté individuelle, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir penser, il faut qu'on puisse exprimer, il faut qu'on ait la liberté de parole et il faut qu'on ait une liberté politique. Quand ces choses-là, ça n'existe pas, même si on est dans une opulence économique et même si on peut porter des mini-jupes et boire de l'alcool et aller en discothèque, ce n'est pas ça ce qui nous donne la liberté, parce que la liberté, ça va au-delà juste d'un habillement ou ces choses-là.
Ce que l'on sent dans Persépolis, de la vie avant la Révolution, c'est une société où la hiérarchie sociale est très sensible.
Vous savez, ça veut dire qu'il faut pas oublier, nous, ça a été un pays féodal pendant très longtemps. Et d'ailleurs, c'est le Shah qui a mis fin au système féodal, notamment en distribuant les terres aux agriculteurs, etc. Donc, ce système comme ça, avec tous ces gens qui avaient des grandes terres, voilà, les propriétés terriens, avec les gens qui possédaient. Donc oui, il y avait une grande différence comme ça. Il y avait vraiment des couches sociales très définies, on va dire. Bon, après, c'était très important de savoir de quel côté on se trouvait. Nous, on était plutôt pas mal lotis. Moi, je fais partie de la classe moyenne iranienne. Mes parents n'ont jamais été très riches, mais on n'a jamais été pauvres non plus, quoi. On a pu voyager, j'ai pu aller dans une école bilingue, voilà, on voyageait en Europe. Mais bon, la situation sans commun mesure était nettement meilleure. Ça, il faut jamais oublier que quand même, au moins, nous n'étions pas punis par le fait d'être nés en Iran. Parce que la plus grande injustice qui existe dans ce monde, la première injustice, c'est là. Vous vous rendez compte que moi, par exemple, juste par le fait que je suis née en Iran, mon passeport, à l'époque, me permettait de voyager dans un seul pays. Alors, vous avez un serial killer qui est né en Norvège, juste parce qu'il est né en Norvège, il a un passeport pour pouvoir voyager dans tous les pays du monde. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait pour avoir le droit à ce passeport qui m'autorise à voyager dans un seul pays, juste parce que mes parents, ils m'ont fait un endroit géographique du monde. Et l'injustice au monde, ça se traduit déjà à l'acte de naissance et au passeport qu'on vous donne. Donc ces choses-là, j'ai dû le vivre aussi dans les classes sociales, mais aussi plus tard à l'échelle mondiale. cette injustice que je n'ai pas vécue dans la classe sociale dans mon enfance, je l'ai vécue au niveau mondial plus tard.
Quel était le discours, Marjane Satrapi, que tenaient vos parents et leur entourage sur l'Europe et sur les États-Unis à l'époque?
Il ne faut pas oublier, le peuple iranien, c'est un peuple très pro-occidental. Sérieusement, l'Occident, c'est ce qu'il y a de mieux. Et les Occidentaux, ils ont réussi quelque chose que nous n'avons pas réussi, ça veut dire leur démocratie, leur liberté. Et de façon générale, je connais pas d'Iranien qui n'a pas de rêve de partir un jour d'Iran et de s'installer en Occident. Personne ne veut aller quelque part en Orient. L'Occident, c'est quelque chose de très apprécié. Donc, après, évidemment, les médias, ils vont vous montrer des gens très hostiles qui veulent détruire l'Amérique, etc. Mais ça, c'est l'image comme ça qu'on montre. Parce que même, par exemple, ces fils d'Ayatollah et tout ça, ils ont tous des passeports canadiens, ils habitent tous aux États-Unis. Tout le monde, à un moment donné, il veut partir de l'Iran. Et l'Occident, c'est quelque chose de très, très, très apprécié. Donc, moi, j'ai été élevée dans le culte de l'Occident. Il y avait quelque chose qui était bien, c'était l'Occident. Et c'est à ça qu'il fallait aspirer. Et c'est vrai que les Occidentaux, ils ont réussi plein de choses. Et donc, on peut apprendre d'eux, bien sûr.
Alors, en 1979, il y a la révolution. Et au début, tous les espoirs sont permis.
Bien sûr, mais comme après toutes les révolutions. Hein, vous savez, après toutes les révolutions, il y a toujours un moment de flottement comme ça, de béatitude, où tout le monde devient sympathique. Moi, je me rappelle, j'étais hyper petite, mais je me rappelle, j'avais 9 ans. Et il y avait un moment à Téhéran où tout le monde conduit comme ça de façon très agressive, pire qu'à Paris et tout ça. Les gens laissaient passer les gens, même si c'était vert pour eux, il y avait comme ça cette entente et tout ça. Il y a eu un moment où il n'y avait pas de gouvernement et il n'y avait rien qui a été saccagé, aucun musée qui a été pillé, rien. Donc il y a eu ce moment de grâce et puis après il y a eu le retour du bâton. Parce que comme toutes les révolutions partout dans le monde, c'est toujours fait par des idéalistes et c'est toujours récupéré par les cyniques. Enfin, c'est le schéma normal. Donc voilà, c'est ceux qui aiment le pouvoir, etc. Après, les révolutions mangent ses propres enfants. Enfin, ça, c'est des banalités que je vous dis, mais ça se passe réellement comme ça.
Et vos parents ont senti... étaient enthousiastes au début?
Ben oui, bien sûr, puisqu'ils en ont fait partie. Mmh. Bien sûr qu'ils étaient enthousiastes. On était dans un pays où l'économie était florissante. Nous étions à l'époque 35 millions d'habitants. Nous habitions un pays qui était 3 fois plus grand que la France. Un pays super riche. Deuxième ou troisième producteur de pétrole, deuxième producteur de gaz... sans parler de toutes les autres richesses. Donc, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait autant de pauvres, parce qu'il y avait des pauvres en Iran. Donc, la révolution a été faite sur cette base-là, et puis sur le ressentiment aussi que le Shah d'Iran avait pris le pouvoir avec le coup d'État mené par les Américains, l'opération Ajax, les Américains et les Anglais. Et voilà, après... pour mettre bien les choses dans leur contexte, il faut pas non plus, je dis pas que tout c'est la faute des Occidentaux et tout ça, parce que quand bien même ils auraient voulu faire un coup d'État et nous faire notre fête, s'il y avait pas les traîtres à l'intérieur du pays, ce coup d'État n'aurait jamais réussi. On a eu tellement de traîtres dans notre pays que pour l'opération Ajax, ils sont venus avec 2 millions de dollars pour faire le coup d'État, ils ont dû dépenser que 50 000 dollars, vous voyez. Donc il y avait des traîtres en plus bon marché. La faute est aussi partagée. On est en grande partie responsable de ce qui s'est passé. Je suis pas du tout ce truc de voilà, tout c'est la faute des autres et pauvres de nous. Et c'est à nous de prendre notre destin en main puisque nous ne sommes pas des mineurs, nous sommes des adultes majeurs. Donc à un moment donné, c'est à nous aussi de dire comment on peut faire mieux. Mais voilà. Après, le révisionnisme dans l'histoire, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, parce que maintenant, je vois, par exemple, beaucoup de gens qui disent « Ah, ce fut si merveilleux ». Ben, vous savez, s'il y a eu autant de religiosité en Iran, c'est que le Shah d'Iran avait tellement peur des forces de gauche qu'il a donné énormément de pouvoir aux mollahs iraniens, qu'il y a eu des écoles coraniques partout en Iran, alors qu'il aurait dû construire de vraies écoles pour que les gens ils aient eu une éducation laïque. Qu'à chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose, il y avait un mollah, qu'il a fallu qu'il embrasse le Coran, il a fallu qu'il aille en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage, il a tout fait. Donc, ils ont quand même renforcé la religiosité dans le pays. Et ça, c'était parce qu'on avait tellement peur de la gauche. Mais le même problème c'était au niveau mondial, c'est-à-dire que le calcul, c'était, dans ces pays qu'on appelait à l'époque la ceinture verte dans tous les pays du sud de l'Union soviétique. Comme les forces d'opposition, c'était des forces communistes, de gauche et tout ça, les Occidentaux, ils ont préféré soutenir tous les mouvements religieux. Et de là vient tout ce qu'on vit aujourd'hui en Iran. Donc l'opération Ajax, le coup d'État qu'il y a eu en Iran, c'est pas seulement un rêve qui s'est brisé en Iran, c'est toute la région. Et après toute la région, c'est tout le monde qui a changé. Le monde d'aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui a été fait à ce moment-là. Parce que l'Iran, ça a été le premier pays dans le continent asiatique qui a fait une monarchie constitutionnelle. C'est le premier pays qui a nationalisé son pétrole, parce que le canal de Suez, l'Arabie Saoudite, tout ça, c'est venu après. Donc, au lieu de dire il y a un mouvement démocratique, on les laisse faire et après on va faire un business équitable avec eux, ils ont dit non, on va leur faire leur fête, on va tout enlever. Ben, vous savez, vous pouvez pas aller partout dans le monde et puis déféquer où vous voulez sans tirer la chasse d'eau. Et puis attendre à ce que les gens de ces pays vous adorent et qu'ils vous admirent. C'est pas possible. C'est ce qui s'est passé. Surtout les États-Unis, la politique américaine après la Seconde Guerre mondiale a été super impérialiste. Ça continue à l'être. Donc, voilà. Donc maintenant, je parle comme si j'étais leader tiers-mondiste, mais c'est pas le cas.
Alors vous alliez dans une école laïque, Marjane Satrapi, oui. Et française.
Pas au début. Mes parents, qui étaient quand même très laïcs, au début, j'étais quand même dans une école de religieuses, hein, l'école Jeanne d'Arc, avec des bonnes sœurs françaises. Et après, j'étais au lycée français de Téhéran.
Ouais. Et pourquoi? Pourquoi ils vous ont...
Parce que ils ont pensé qu'en allant à l'école Jeanne d'Arc, j'allais certainement bénéficier d'une rigueur pas possible.
Donc, et c'était vrai?
Moi, j'ai détesté. Alors, je sais qu'il faut pas dire ça, mais franchement, tout ce qui était bonne sœur, machin, tout ça, j'ai trouvé que c'était des gens très revêches, très très méchantes. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des bonnes sœurs en Autriche, des bonnes sœurs catholiques. Là aussi, je n'ai pas trouvé du tout l'amour de Jésus et la gentillesse. J'ai trouvé des bonnes femmes très revêches, très méchantes aussi. Je suis toujours très sceptique de tous les représentants religieux de façon générale. Je ne vois pas au nom de quoi il y a personne qui serait plus proche de Dieu que moi. Quand même, quelle arrogance de dire « moi, j'ai été choisie par Dieu ». Eh ben, dis donc.
Et vous avez protesté pour qu'il vous enlève de l'école Jeanne d'Arc?
Non, ça s'est fait naturellement. J'étais pas très contente. J'étais pas très contente.
À 14 ans, vous êtes partie à Vienne.
Oui.
Vienne a été choisie parce que votre mère avait une amie là-bas.
Ouais.
Et ça s'est pas bien passé.
Ça veut dire que ça s'est pas bien passé. Il faut aussi mettre les choses dans son contexte. Ça veut dire la pauvre dame. Déjà pour elle, sa vie, c'était pas facile. Elle-même, elle avait énormément de problèmes, tout ça. Donc avoir un autre enfant à charge, c'était pas possible. Donc voilà. Je lui en veux pas. À sa place, j'aurais fait pareil. Sur le coup, vous les vivez pas mal, mais après, on grandit, on se dit, bon, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de cette personne? Donc, pareil, voilà.
Donc là, vous êtes toute seule, sans contact avec vos parents.
Ouais.
Vous êtes triste?
Pas tant que ça.
Ah bon?
Non, pas tant que ça, parce que j'ai toujours eu ce truc. Moi, j'ai jamais trop aimé être enfant. Jamais. Parce que l'enfance, pour moi, c'était être dépendant des adultes. Ça veut dire ne pas avoir la liberté, de ne pas pouvoir choisir pour moi-même. Moi, je n'avais qu'un rêve, c'était d'avoir une voiture, de pouvoir conduire, d'aller de ville en ville. Et je m'étais promis que le jour où je pourrais le faire, j'aurais une voiture. Et dans cette voiture, il y aurait du Kit Kat et du Canada Dry. C'est ce que je m'étais promis. Mon aspiration, c'est il faut que je parte. Mon amour de liberté, ça a toujours été beaucoup plus que la famille et la patrie et tout ça. Et j'ai jamais trop aimé, c'est-à-dire cette insouciance d'enfance qu'on dit. Oui, l'enfance, il y a quelque chose d'insouciant. Oui, forcément, on n'est pas responsable des choses, mais moi, je voulais être responsable. Je voulais avoir mon destin en main et je voulais être libre. Donc, dans un premier temps, non. C'était super. J'avais 14 ans et j'étais déjà adulte. Mais c'est après que c'est, après, face à la réalité de la chose, parce qu'il y a cette idée de je vais avoir une bagnole avec des Kit Kat et du Canada Dry dedans. Et puis après, vous vous retrouvez comme une gamine de 14 ans qui sait rien faire. Donc oui. Après, ça devient très difficile, oui.
Donc ça, c'était au milieu des années 80. Vous êtes arrivée là-bas en 84.
Ouais, c'est ça.
2 ans plus tard, Kurt Waldheim était chancelier.
Absolument.
Est-ce que le fait que ça se soit pas très bien passé tient aussi à la nature du pays dans lequel vous arrivez?
Bah, vous savez, c'est-à-dire que l'Autriche, c'est un pays où les Autrichiens, ils n'ont jamais accepté qu'ils ont été nazis. Ça veut dire qu'ils ont été, il y a eu l'Anschluss, mon Dieu, c'était pas de leur faute, ils ont été envahis. Ça n'a jamais été de leur faute. Et puis Hitler, il n'était pas autrichien non plus. Et puis, vous voyez, il y a eu toujours ce truc de, ça n'a pas été de notre faute. Après, Vienne, il faut aussi mettre, Vienne, ça a toujours été une ville qui n'a jamais voté pour les extrêmes. À l'époque, c'était, le maire était socialiste. Ça se passe toujours, c'est comme à Paris. À Paris, il y a quoi, 5% des gens qui votent pour le Front National. C'est toujours, c'est pas les grandes villes, c'est dès que la ville est cosmopolite, dès que les gens, ils voient l'autre et qu'il lui fait plus peur, ils n'ont pas peur de l'étranger. Donc, la xénophobie, c'est jamais un truc de capital. C'est un truc qui va dans les petites villes, voilà, l'identité et tout ça. Après, c'est vrai que l'Autriche a cette chose qui est particulière, c'est très bourgeois, Vienne, c'est très bourgeois, c'est très catholique, c'est très conservateur. Je suis retournée à Vienne 20 années plus tard, et je suis allée avec mon mari, et je lui ai dit, à Vienne, rien ne change, et si ce monsieur, qui s'appelait monsieur Havelka, n'est pas mort, on va ouvrir la porte de ce café. Monsieur Havelka, il va avoir une chemise blanche, un gilet gris. Il va avoir le dos au mur. Et quand on va ouvrir la porte, il va se retourner, il va faire Gruskot. On a ouvert la porte 20 ans plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il n'était pas mort. Je pense que maintenant, il a dû décéder. Mais c'est comme ça. Ça s'appelle Österreich. Hein. Österreich, ça veut dire l'Empire de l'Est. C'est un empire. Donc, il y a ce truc-là. Donc, vous avez cette société qui est très lourde comme ça. Mais quand vous avez des mouvements alternatifs, du coup, à Vienne, ça va dans tous les sens. Parce que quand vous, savez, c'est comme en Angleterre, la société est si conservatrice que du coup, vous avez le mouvement punk. Pourquoi il apparaît en Angleterre et pas ailleurs? C'est à cause de ça. C'est qu'il y a une telle charge de conservatisme d'un côté que pour faire une sorte de...
Plus la contrainte est forte.
Voilà, plus la le côté révolté, il est exacerbé. Donc, c'était ça. Et comme je ne pouvais pas trouver des amis parmi ces bourgeois bien installés et tout ça, donc voilà, c'était tous les gens qui étaient pas réellement dans la société qui sont devenus mes amis. Et c'est ce qui a certainement, qui m'a le plus changé dans ma vie, c'est ça. C'est que moi, j'ai grandi dans une famille quand même comme ça, de classe moyenne, avec père ingénieur, tout ça. Le monde, ça se passe comme ça. On fait ça comme étude, blablabla. Bla, bla. Et puis, vous rencontrez des gens qui ne font pas du tout tout ça et qui n'ont pas l'air malheureux du tout. Donc, au bout d'un moment, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a une façon alternative de vivre. Mais bon, après, il faut dire aussi qu'à Vienne aussi, il y a aussi cette tendance très suicidaire. C'est-à-dire que je passais mes 15 ans, j'étais dans les cafés viennois à parler de suicide avec mes amis qui devaient avoir, je sais pas, 18 ou 19 ans. On parlait de suicide du matin jusqu'au soir, tout habillé en noir et blafard de peau. On ne parlait que de suicide. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de joie de vivre maintenant.
Vous les revoyez? Vous revoyez certaines personnes que...
Non. Je vois très peu. Il y a très peu de gens que je traîne comme ça de mon passé. J'ai 2-3 amis qui viennent de mon passé, mais c'est tout. La plupart des relations qu'on a avec les gens, après, ça devient des mémoires d'anciens combattants. Ça ne me plaît pas du tout. Il y a très peu de gens avec lesquels vous évoluez à peu près dans le même sens que vous avez envie de revoir. C'est pour ça que j'ai jamais été sur aucun réseau social. Je me rappelle quand Facebook était fait et tous mes amis étaient là. Oui, on s'inscrit à Facebook. Et j'étais là, mais quelqu'un que j'ai pas vu depuis 20 ans, il y a bien une raison pour laquelle je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce qu'il va apparaître. Pourquoi soudain j'aurais envie de le voir? Si je l'aimais et que je devais continuer à le voir, ben je le verrais. Comme je te vois toi, par exemple, on continuerait à se voir. Si j'ai arrêté de les voir, c'est qu'il y avait une raison. Et cette raison est toujours valable. Les gens, ils ne changent pas. Hein. Les gens que vous n'aimiez pas à 13 ans, il y a très peu de chances que vous les aimiez à 40 ans.
C'est les mêmes. Donc vous voyez peu de monde?
Ah oui, j'ai de moins en moins d'ailleurs. Ça me va de mieux en mieux. Parce que, vous savez, j'ai même pas le temps. Le temps que vous passez avec les gens, c'est un temps précieux. La seule chose que vous avez de précieux, grosso modo, dans notre vie, c'est notre temps. Votre argent, vous le refaites. Tout peut se refaire. Même la jeunesse peut se refaire à coup d'un lifting, tout. Mais le temps que je perds, les 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure que je perds, c'est à jamais. C'est foutu, c'est fini, c'est une parcelle de ma vie qui s'en va. Donc, comme je n'ai pas de temps, même suffisamment pour les gens que j'aime vraiment, je vois pas pourquoi je dépenserais ce temps pour les gens que je m'en fous. Donc, oui, je vois très peu de gens. Et je vois très peu les gens aussi en groupe. J'aime bien voir les gens un par un et d'avoir une vraie discussion avec eux. Sinon, on voit pas les gens, juste, il y a un attroupement, mais il n'y a pas réellement, voilà.
Donc, pas trop de fêtes.
Je déteste les fêtes. Je hais les fêtes. C'est-à-dire, les fêtes, c'est bien si vous êtes en dehors de votre tête et vous savez, vous êtes bourré ou je sais pas quoi, mais comme ça, aller faire gna avec quelqu'un, gna avec quelqu'un d'autre, non, ça me plaît pas du tout. J'aime pas du tout les fêtes, non.
Alors, à Vienne, vous y restez 4 ans.
Ouais.
Retour en Iran ensuite. Et en 1994, départ pour la France, pour Strasbourg.
Ouais.
Pourquoi c'est Strasbourg que vous choisissez pour faire une école d'art, mais ça aurait pu être parce une
que,
autre ville.
Non, parce que en fait, il y avait l'attaché culturel de l'ambassade de France, une dame que j'ai adorée qui s'appelait Claude Latour, très très gentille, et elle m'a dit si tu veux faire des études d'illustration, il faut que tu ailles aux arts décoratifs de Strasbourg. C'est la meilleure école d'illustration à l'époque. Le directeur, en fait, de la section illustration, c'était Claude Lapointe, qui était un excellent professeur. Et voilà. Et puis, les arts décoratifs, il y en a que deux en France. Vous en avez un à Paris, et puis vous en avez un à Strasbourg. Et pour l'illustration, elle m'a dit, il faut aller à Strasbourg. Donc, je suis passée à Strasbourg, j'ai passé le concours. Et puis, voilà.
Et c'est un bon souvenir, la scolarité, là-bas?
Non, pas vraiment. Non, j'aimais pas les gens. Non, parce que vous savez, il y avait ce truc, il faut dire, vous savez, dans les écoles d'art, c'est comme à HEC. Vous savez, à HEC, les gens qui vont, qui ont leur blazer comme ça, ils ont un peu la coupe Bernard-Henri Lévy avec leur chemise blanche, tout ça, qui vont devenir des futurs businessmen et tout ça, et ben vous avez le même uniforme dans les écoles d'art. Donc à l'époque, c'était bandeau, sarouel, comme ça, les clopes roulées, je sais pas quoi. Et moi, j'ai jamais trop aimé ça. Et puis, il y avait une attitude à avoir, et puis comme ça... Et puis on était très conceptuels, et puis vaveurs. Et moi, j'ai toujours cru à l'importance de la rigueur, et il faut apprendre les choses rigoureusement, et avant de faire de l'abstrait, il faut qu'on sache bien faire du classique et tout ça. Donc je pense pas que j'appréciais beaucoup de gens, mais je pense pas qu'ils m'appréciaient beaucoup non plus. Non.
Marjane Satrapi, est-ce que votre franc-parler vous a plus servi que desservi?
A priori, ça dessert parce que les gens peuvent me trouver très brusque, brutale, insupportable, trop sûre de moi, des choses comme ça. Et parce que vous avez les codes sociaux et puis la diplomatie et tout ça et tout ça. Mais à long terme, ça m'a toujours servi parce que dès lors où je dis quelque chose à quelqu'un, ils savent que je ne mens pas. Donc, si je dis que quelque chose est bien, ou si je dis à quelqu'un que je l'aime vraiment bien, ou si je dis à quelqu'un que je fais quelque chose pour lui, ils savent très bien que je vais le faire. Donc, au moins, ça a cet avantage-là. Moi, personnellement, j'ai toujours préféré que les gens, ils m'attaquent frontalement et qu'ils me disent tout ce qu'ils pensent. Même ça me fait rire, les gens qui sont pas commodes et qui me disent des énormités, même si ça me déplaît. J'ai toujours préféré ça que cette espèce de chichi, comme ça, de politesse. Parce que, comme moi, je ne mens pas, je m'attends pas à ce que les gens me mentent. Donc après, je suis très déçue. La déception est immense. Je préfère avoir une bonne claque plutôt qu'un couteau dans le dos. Parce qu'un couteau dans le dos, ça peut vous tuer. Une claque, ça vous fait un peu juste la joue rouge. C'est pas très grave.
Ben merci, Marjane Satrapi. On se retrouve demain soir et demain soir, nous parlerons de Persépolis.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Marjane Satrapi. À voix nue, réalisation Marie-Laure Ciboulet, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.